Le cinéma, un monde aux horizons multiples et variés, où bon et mauvais se côtoient sans arrêt. Ensemble, cinéma, séries, jeux vidéo, livres, BD, comics forment un vaste univers. Découvrez-en le bon comme le mauvais avec de l'actu, des avis, des suggestions, des focus, nombre de rubriques qui sont au programme de Showtime. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Showtime. Vous pouvez écouter l'émission autant sur Radio Larzac que sur Radio Sainte-Afrique. Et si vous venez à la louper, c'est pas grave, elle est disponible en podcast sur les sites de Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique. Pour cet épisode du mois de février, on parlera un peu amour. Et ouais, Saint-Valentin oblige. Au programme de cet épisode, le coup de gueule, l'actu du mois, mon avis sur Palo Alto, quelques suggestions romances et un focus sur les vampires et l'amour, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, mais que vous réserve donc ce focus suspense? En attendant, je vous propose un petit retour dans les années 80 avec Huey Lewis and the News avec The Power of Love.
Credit card.
C'était Huey Lewis and the News avec The Power of Love. Eh ben, dire qu'on est en 2015, nombre de choses qui se passent dans Retour vers le futur 2 ben, ne se sont pas produits, ou il y a plein d'incohérences avec le film. Ben, par exemple, Michael Jackson n'est plus et j'en passe. Bon, allez, passons au coup de gueule. Non mais c'est vrai, il y en a marre! Ce mois-ci, comme annoncé dans l'épisode précédent, je vais revenir sur la news au sujet de Ghost in the Shell. Je vous présente à nouveau cette news. Pour faire simple, Scarlett Johansson a accepté le rôle du major Kusanagi dans le film à venir Ghost in the Shell de Rupert Sanders. Le film Ghost in the Shell est une adaptation du célèbre manga de Masamune Shiroe. Voilà le problème, la raison de mon coup de gueule. Ben, c'est Scarlett Johansson dans le rôle du Major Kusanagi. Ok, dit comme ça, pour une personne lambda, il n'y a rien de bien perturbant sur le coup, je le conçois. Peut-être qu'en présentant la chose comme ça, Scarlett Johansson dans le rôle d'une japonaise. Vous comprenez mon problème? Encore, si Scarlett Johansson incarnait un personnage tout autre que Motoko Kusanagi, l'héroïne du manga Ghost in the Shell, je ne dirais rien. Mais là, quand même, un peu de respect. C'est comme si Hollywood adaptait Astérix et qu'au final, Astérix se trouvait être un Indien qui fait face aux colons anglais. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ne dénaturez pas le support de base. Par exemple, l'actrice Rinko Kikuchi, que l'on voit dans Pacific Rim, aurait fait à mon goût une meilleure Motoko Kusanagi que Scarlett Johansson. Surtout que Rinko Kikuchi, je vous le donne dans le mille, est une actrice japonaise. Franchement, je n'ai rien contre Scarlett Johansson, mais quand même, vous auriez pu choisir une actrice plus appropriée pour le rôle. Quoique, faut le dire, certes Scarlett Johansson a la plastique, mais ce n'est pas non plus y actrice. Non, sérieusement, ce Ghost in the Shell, faut attendre d'en voir plus, d'accord, mais ça pue un peu beaucoup quand même. L'actu du mois. Alors que Heroes Reborn se profile à l'horizon, un retour d'une série que l'on ne croyait plus revoir à la télé, eh bien, nombre de séries, elles, annoncent d'ores et déjà leur retour pour la saison à venir. Et oui, ce mois-ci nous est parvenu les premières nouvelles de renouvellement de séries. En gros, on commence à savoir quelles séries nous retrouverons l'année prochaine sur nos petits écrans. Parmi celles-ci, Euro aura droit à une quatrième saison, tandis que Flash est reconduit pour une saison 2. La série Gotham aura elle aussi droit à une deuxième saison. Supernatural, elle, continuera de nous faire voyager sur les roues des États-Unis avec une 11e saison. Juste incroyable. Girls est reconduite pour une saison 5. The Vampire Diaries, dont des rumeurs annonçaient la fin pour cette saison, reviendra pour une 7e saison. Allez, Yann, Nina, réconciliez-vous! On veut du Delena, nous! Delena, acronyme pour parler du couple Damon et Elena. La série The Originals, la petite sœur de Vampire Diaries, poursuivra encore sa route de son côté pour une 3e saison. Et j'en passe, car c'est juste énorme le nombre de séries qu'il y a. Je vous parlais précédemment dans Showtime d'une série à venir sur le personnage de Supergirl. Supergirl est une super-héroïne de chez DC Comics. C'est la cousine de Superman. Donc vous l'avez compris, c'est une sorte de Superman, mais au féminin. Si jusque-là nous avions un synopsis pour la série, quelques infos par-ci par-là, nous n'avions pas encore le nom de la personne qui incarnerait Kara Zor-El sur le petit écran. Aujourd'hui, le mystère est levé. Laissez-moi vous présenter Melissa Benoist, ou quel que soit son nom, sa prononciation, parce que là, je le dis de manière approximative. Également, nous apprenons le nom de l'acteur qui jouera Jimmy Olsen. C'est Mekad Brooks qui jouera le jeune photographe. Comme vous avez pu l'entendre, là aussi, je ne sais pas comment on prononce le nom de ce monsieur. Mekad, Mehad, Mek... mystère. Et Jimmy Olsen, pour les néophytes, c'est le jeune photographe, comme je l'ai dit, qui accompagne souvent Clark Kent sur ses diverses investigations ou quoi que ce soit. Donc, que de nouvelles au sujet de la série qui semble sur de bons rails. Hâte de voir ça, car il faut le dire, ces séries adaptées de comics sont de qualité. Je vous invite à écouter, si vous l'avez manqué, l'épisode précédent de Showtime, où je parle entre autres de la série Flash, qui est pour moi un vrai coup de cœur cette saison. J'aime donner des news qui font écho à des news annoncées dans des précédents épisodes de Showtime. La nouvelle que voici fait écho à une rumeur que j'évoquais dans l'épisode spécial Conte de Fées de la saison 1 de Showtime. Ça remonte. Dans cet épisode, je parlais d'une adaptation à venir par Guillermo del Toro de La Belle et la Bête. Guillermo del Toro, c'est le monsieur à qui l'on doit Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, entre autres. Donc, au sujet de cette Belle et la Bête, cette adaptation de La Belle et la Bête. Dans le rôle de Belle, la rumeur laissait entendre que la ravissante Emma Watson pourrait tenir le rôle. Aujourd'hui, nous apprenons que Emma Watson jouera bien Belle dans une version live de La Belle et la Bête. Mais ici, il n'est plus question de Guillermo del Toro. En effet, ce serait une adaptation live made in Disney. Du coup, je pense pas que l'univers fantastique du Mexicain coloré avec la magie Disney. Je pense que ce serait trop sombre pour un film grand public. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner. On dirait que Disney cherche à réactualiser les contes de fées qui ont bercé notre enfance afin de toucher un tout nouveau public. Maintenant, reste à savoir qui jouera la bête dans toute cette histoire. Enfin, des nouvelles concrètes au sujet du troisième opus de Ghostbusters. On aura eu droit à de tout dernièrement. Retour des anciens acteurs, reboot. Reboot, c'est quand on prend un univers de base d'un film, par exemple Ghostbusters, mais qu'on l'adapte à l'époque actuelle en faisant table rase de tout ce qui a été fait jusque-là. Donc, je disais, retour des anciens acteurs, reboot, film avec un casting principalement féminin, etc., etc. Mais comment faire la part du vrai et du faux dans tout ça? Eh bien, en prenant son mal en patience et en attendant des annonces officielles. Aujourd'hui, une chose est sûre. Enfin, trois choses sont sûres. Primo, le casting principal du film sera féminin. Nous suivrons donc quatre héroïnes chasseuses de fantômes. Deuxio, le film sera réalisé par Paul Reed. Ou Paul Red. Je sais pas, pourquoi vous avez des noms compliqués, les gens? Prochain coup de gueule peut-être, je verrai. Enfin bref. Et tertio, Ghostbusters 3 ou SOS Fantôme 3 est prévu pour une arrivée dans les salles obscures le 22 juillet 2016 aux US. Donc approximativement... Ça va!
Approximativement...
Je l'ai fait à l'anglaise, tu veux de l'anglais? Donc approximativement dans les alentours si tout va bien chez nous. D'ici là, de plus amples précisions nous seront parvenues et comptez sur moi pour vous en faire part. Allez, petite transition musicale avec les Poets of the Fall, Love Will Come to You.
From within, it's supposed
C'était les Poets of the Fall, Love Will Come to You. Vraiment, j'adore ce groupe et surtout la voix du chanteur, je sais pas. Je trouve que ça change du timbre de voix des chanteurs que l'on peut entendre actuellement. Enfin, ça change, ça fait pas de mal. Allez, la vie sur Palo Alto, c'est parti. La vie sur...
Fuck Fred.
Oh, oh, wow! Wow! Fuck, that felt so fucking good! That felt so...
Palo Alto. Palo Alto est le premier film de Gia Coppola. C'est la nièce de Sofia Coppola. Sofia Coppola, qui, elle, est la fille de Francis Ford Coppola. Et oui, chez les Coppola, on fait du cinéma son dada. Pour sa première production, Gia s'est entourée de beau monde. Nous trouvons à l'affiche Emma Roberts, nièce de Julia Roberts. Aux côtés de Emma Roberts, nous trouvons aussi James Franco. Le long métrage introduit également Jack Kilmer dans le paysage cinématographique. Je ne crois pas que Palo Alto ait eu droit à une sortie dans les salles françaises. S'il y a eu sortie, ça a été dans un nombre de salles assez mince. Heureusement pour nous, le film nous est arrivé dans les bacs le 2 janvier 2015. Et en voici le synopsis. Piégés dans le confort de leur banlieue chic, Teddy, April, Fred et Emily, adolescents livrés à eux-mêmes, cherchent leur place dans le monde. Ils ont soif de sensations fortes et testent leurs limites. L'alcool, les drogues et le sexe trompent leur ennui. Ils errent sans but dans les rues ombragées de Palo Alto, incapables de voir clair dans le tourbillon confus de leurs émotions. Sauront-ils éviter les dangers du monde réel?
Mr. B is a hottie. Do you know he wants to get it in with April?
No, he doesn't. Why would you say that?
Mr. Morrison, given the support you have from the community, the corps would like to give you one last chance to turn your life around.
Je trouve plus simple de vous donner les synopsis que l'on trouve sur les sites officiels des films ou au dos des DVD ou Reblu. Ça facilite la présentation. Et ici, le synopsis présente bien le film. Pour autant, comme ça laisse le suggérer, ce n'est pas à proprement parler un teen movie. Ça tourne pas en love story niaise ou je ne sais quoi comme on le trouve dans des comédies romantiques à 2 francs 6 sous. Bien au contraire. Ici, nous avons affaire à un film qui sonne vrai. Le premier Gia Coppola est une sorte de voyage de l'adolescence vers l'âge adulte. Et par moments, il est dur de ne pas faire le parallèle avec la série anglaise Skins. En effet, les personnages cherchent à se trouver. Comme dit dans le synopsis, Teddy, April, Fred et Emily, piégés dans le confort de leur banlieue chic, cherchent à trouver leur place dans le monde. Pour ça, ils vont tester leurs limites avec l'alcool, la drogue, le sexe et autres. Si ça, ça ne fait pas penser à Skins. Dans un sens, nos quatre adolescents cherchent leur place en cherchant l'amour. L'amour est vraiment au cœur de l'histoire. Et c'est en quelque sorte le fil conducteur tout du long du film. Tout revient à ce sentiment. Ceux qui arriveront à traverser les épreuves, à trouver l'amour, se verront grandis, tandis que les autres resteront piégés dans l'adolescence. Ou tout du moins, ils ne chercheront pas à s'auto-détruire. Dur d'en dire plus, sans spoiler.
Try not to hang around Fred.
Dude, you can't be here. You just don't care about anything.
I wish I didn't care about anything.
already sucks.
I'm older and I know that there aren't a lot of good things around. And I know that you are really good.
Les acteurs du film sont vraiment bons. Les seconds rôles, ils s'en sortent tous à merveille. C'est vous dire, Nat Wolff, l'acteur qui joue Fred, ben il incarne à la perfection son rôle. Pour moi, le personnage de Fred est détestable à souhait. On n'a qu'une envie, c'est de pouvoir entrer dans le film et lui mettre une grosse claque dans sa gueule. Je suis cru, c'est vrai, mais Fred est une belle tête à claque. Et à mon sens, c'est la preuve du talent de Nat Wolff. J'en profite aussi pour saluer les seconds rôles. Parlons-en justement. Pour la plupart, ce sont des adultes que nous trouvons dans ces seconds rôles. Parents, profs, et pour être franc, certains ne sont pas mieux que leurs enfants. Dans ces seconds rôles, nous trouvons quelques acteurs connus, à commencer par Val Kilmer et James Franco. Je vais être franc, je n'ai pas du tout reconnu Val Kilmer tant je le trouvais changé dans le rôle du beau-père de April. Il faut dire que depuis Batman Forever, on dirait que le monsieur a pris du poids. Mais revenons-en au personnage qu'il incarne, celui de Stewart. On dirait un gros gamin! Enfin, c'est le type de l'adolescent qui reste cloîtré à travailler derrière son ordinateur tout en jouant aux jeux vidéo. C'est aussi le genre de personne qui sait tout sur tout. Pour vous expliquer, April demande à Stewart qu'il corrige sa copie et au lieu de corriger le devoir, ben, il va le réécrire de A à Z. Vous voyez ce que je veux dire ? Monsieur a la science infuse. Ça donne déjà une belle image des adultes que nous trouvons dans Palo Alto. Bah tiens, laissez-moi vous parler d'un autre adulte du film. Le professeur de sport, Mr. B. Alors lui, c'est l'archétype du grand gamin. Et en plus, parler de lui va me permettre de faire le lien avec quelques éléments que j'ai évoqués plus tôt.
Why do you have to try so hard to seem crazy?
Do you even think she's pretty?
She's pretty.
I don't think she's that pretty.
I corrected your paper.
You could have just corrected it. You didn't have to rewrite the whole thing.
Dans le casting, comme dit plus tôt, nous trouvons James Franco. Ah, James Franco, ça faisait très étrange cela. Enfin bref, qu'est-ce que j'adore cet acteur. C'est encore plus étrange dit comme ça. Faut que j'arrête moi cette émission, elle me fait faire des choses bizarres, excusez-moi. Ici, James Franco tient un second rôle dans Palo Alto de Dia Coppola. Pour autant, il a son importance. Son personnage, Mr. B, est professeur de sport. Séparé de sa compagne, il confie la tâche à une de ses élèves de garder son enfant quand monsieur se rend à des rendez-vous. Là où ça devient glauque, c'est que Mr. B est en love de April, son élève. Je vous passe certains détails croustillants ou révulsants. Tout dépend du point de vue. Mais rien qu'en disant ça, je pense vous avoir dit beaucoup de choses. Tout pour dire que les adultes ne sont pas finis dans Palo Alto. Et dans un sens, ils recherchent qu'une chose, l'amour, l'acceptation. Dans un sens, l'un ne va pas sans l'autre. Le beau-père cherche, si on veut, l'approbation de son entourage, l'amour de son entourage, alors que Mr. B, lui, est comme un grand adolescent qui cherche l'amour. Pas grave, si on veut plus de lui, il jettera son dévolu sur une autre. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour. Pas la peine de parler effets spéciaux car ici c'est pas un film qui se prête à moules effets spectaculaires d'explosions pyrotechniques. Et non, non, non. La BO, quant à elle, je pourrais pas en dire grand plus. C'est plus une compile de morceaux plus ou moins connus, le tout saupoudré de quelques compositions originales fort sympathiques pour rythmer le tout.
You're going down the tunnel of death. You're young. You don't know why you do things. But there's always a reason.
Allez, récapitulons. En plus, un teen movie plus adulte qu'il n'y paraît. La thématique de l'amour, acceptation. Le casting de qualité, autant au niveau des seconds rôles que des premiers rôles. En moins, le rythme du film qui peut paraître étrange, et la fin. En conclusion, Même si sur certains points il m'a charmé, Palo Alto de Gia Coppola m'a partagé. En effet, c'est surtout le rythme du film qui est étrange. Il n'y a pas de réel envolé. Ça fait penser un peu à Bling Ring qui est un peu dans le même genre. Ça se laisse regarder. Mais il manque une petite envolée, enfin un truc. J'ai vraiment du mal à le définir. Ben, du coup, la fin, ben, boum, elle arrive d'un coup. Et on se dit, ben, déjà fini ? Il ne manque rien. Mais ça surprend. À l'issue, c'est nos héros, les adolescents qui se trouvent pour la plupart grandis, tandis que les adultes sont les vrais prisonniers de leur routine. Saluons le casting du film et surtout un bravo à Gia Coppola qui s'en est bien sorti pour son premier long métrage. Pour vous aider à situer un peu mieux mes avis cette saison, je donne des notes sur 5. Et après réflexion, je donne un 3,5 à Palo Alto. La note joue surtout pour moi sur le fait que l'électrocardiogramme du film est au calme plat tout du long. Après, si on aime les films calmes, posés, il vaut peut-être un 4, oui. En tout cas, moi, tout du long, j'y ai trouvé un petit quelque chose qui m'a fait penser à la série Skins. Et pour moi, ça a aidé à faire le charme du film. Allez, pour rester dans la thématique Palo Alto, je vous propose un petit extrait de la bande originale. Je pense que vous l'avez entendu un petit peu dans les bandes annonces, on l'entend un peu en fond, mais j'avais envie de vous la faire partager. Pour vous donc, Devante Ince, de la bande originale de Palo Alto. Très étrange comme titre, je me suis pas trompé, là je me demande, faudra que je regarde de plus près. Grâce à Marie, j'ai pu vérifier le titre de la musique. Et c'est bien Devante Ince, c'est le monsieur ou la madame, je sais pas, qui a fait la musique. Et ben oui, la musique s'appelle bien Palo Alto de Devante Ince. Je m'embrouille. Ben tiens, en parlant de Marie, vous allez pouvoir l'entendre dans un superbe jingle. Suggestion.
Les suggestions.
Merci Marie pour ce jingle. Pour cet épisode de Showtime, placé sous le signe de la Saint-Valentin, je vous propose quelques suggestions romance, d'où ce beau jingle. Enfin, pour ces suggestions, ça sera à voir, car certaines ne sont pas aussi romantiques qu'elles n'y paraissent. Voilà donc pour vous un film français. Oh oh oh, chose rare dans Showtime, un film français. 20 ans d'écart de David Moreau avec Pierre Niney et Virginie Efira. En voici le synopsis. Alice Lantin a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d'une impeccable conscience professionnelle au point d'en oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine Rebelle. Tout sauf son image de femme coincée. Mais lorsque le jeune et charmant Balthazar, à peine 20 ans, va croiser le chemin d'Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Réalisant qu'elle détient la clé de sa promotion, Alice va feindre la comédie d'une improbable idylle. Un petit film français, plus sympathique qu'il n'y paraît. Faut le dire, les Français savent faire les comédies. Par contre, des fois, souvent même, ils se répètent, toutes les comédies se ressemblent. Pas une pour se démarquer de l'autre. Mais ici, 20 ans d'écart et l'exception qui confirme la règle. Ça change et c'est sympa. À savourer avec une boîte de chocolat. Un petit film américain pour la suite de ces suggestions. Don John 2 et avec Joseph Gordon-Levitt. Alors là, c'est vraiment à l'opposé de 20 ans d'écart. C'est cru, très cru. En voici le synopsis. John Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé Don John en raison de son talent à séduire une nouvelle fille chaque week-end. Mais pour lui, même les rencontres les plus excitantes ne valent pas les moments solitaires qu'il passe devant son ordinateur à regarder des films pornographiques. Barbara Sugerman est une jeune femme lumineuse, nourrie aux comédies romantiques hollywoodiennes, bien décidée à trouver son prince charmant. Leur rencontre est un choc, une explosion dans la vie de chacun. Bourrés d'illusions et d'idées reçues sur le sexe opposé, John et Barbara vont devoir laisser tomber leurs fantasmes s'ils veulent avoir une chance de vivre enfin une vraie relation. Voilà. Ce petit résumé donne le ton, et je pense que vous l'avez compris, c'est pas tout public. Pourtant, je crois que le film est marqué tout public à l'arrière. Quand je disais, il n'y a pas longtemps qu'il y avait un gros souci au niveau des avertissements, accord parental, etc. Enfin bref. Ce que je trouve bien dans Don John, et qui change des comédies romantiques habituelles, c'est que ça se penche sur le côté... Il faut trouver une personne avec qui l'on se sente bien. C'est ce côté-là qui est mis en avant dans Don John. Et du coup, je trouve que ça rend le film plus vrai. Et pour terminer ces suggestions, une petite série américaine, Girls 2 et avec Lena Dunham. L'histoire, l'entrée dans la vie active de quatre jeunes filles d'une vingtaine d'années, de leur humiliation à leur rare triomphe. Anna, l'éternelle stagiaire, rêve de devenir écrivain. Marnie, sexy et un peu gare sur les bords, ne manque pas d'ambition. Et Jessa, hippie dans l'âme, aimerait gagner sa vie de son art. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé ce synopsis, mais je m'excuse d'avance, mais je viens de me rendre compte qu'il manque une des quatre filles. Je suis vraiment désolé, je saurais pas vous dire qui c'est. Enfin bref. Oui, je regarde Girls, et alors elle est sympa comme série. Là encore, comme Don John, ce que j'apprécie dedans, c'est son côté proche du réel. C'est une série qui sonne vraie. L'amour tient une place importante dans cette série, d'où sa présence dans ses suggestions. Voili voilou, ces petites suggestions sont terminées. Je pense que vous aurez de quoi faire pour passer une bonne Saint-Valentin. Focus sur les vampires. Ça fait étrange dit comme ça, hein. Je suis sûr que vous vous attendiez à entendre un petit son, quelque chose. Mais non, cette fois, je fais un focus un petit peu plus simple que d'ordinaire, puisque ça sera surtout du blabla. Je m'en excuse d'avance, il n'y aura pas trop de son de transition, mais ça peut pas faire de mal de parler un peu plus sérieusement de certaines choses. Donc, pour le focus de ce mois, je vais vous parler vampire. Très étrange pour le mois de février. Le mois des amours, me direz-vous. Eh bien, pas si étrange que ça, vais-je vous répondre. surtout lorsque l'on regarde de plus près ces créatures de l'imaginaire populaire. Je vous préviens tout de suite, pour préparer ce focus, j'ai retravaillé le topo vampire de l'émission spéciale vampire de la saison 1 de Showtime. Donc si ça se répète un petit peu, que vous retrouvez certains éléments, c'est normal. Mais bon, pour autant, il y a du neuf quand même. Parlons donc amour, parlons donc vampire. Les vampires, créatures de la nuit se nourrissant de sang pour perdurer. C'est Bram Stoker avec Dracula en 1897 qui a popularisé cette figure de légende. Vivant la nuit, dormant le jour dans un cercueil, pas de reflet dans les surfaces réfléchissantes, craint le soleil, l'ail, les symboles qui ont trait à la religion, etc. Un pieu dans le cœur est le moyen le plus efficace pour en venir à bout. Ces éléments propres aux vampires sont ainsi repris au fil des ans. Des dérivés viennent. Trancher la tête pour les défaire. Ils peuvent vivre au soleil et même y briller. Ils craignent l'argent comme les loups-garous, etc. etc. Nombreuses sont les réinterprétations quant à sa nature, ses faiblesses, ses forces et autres. Aujourd'hui encore, un élément reste de toutes ces histoires et diverses réinterprétations. C'est l'amour. Dans toute histoire où vampire il y a, romance, nous trouvons. Il faut dire que ces êtres fascinent, attirent de par un certain magnétisme, voire sont presque un symbole érotique. D'où vient cette fascination? Pour reprendre une phrase de « Nous sommes la nuit », un film de vampire. Imagine que tu te réveilles et que tu puisses faire ce que tu veux parce que tu es immortel. Je pense que cette phrase résume bien l'intérêt porté aux vampires, leur immortalité. Qui ne rêve pas de cette immortalité? Curieusement, la plupart du temps, les vampires cherchent à s'en défaire, à disparaître. Mais malgré ces pensées moroses, il arrive aux vampires de se complaire dans l'amour. Si on trouvait déjà un peu d'amour dans le roman Dracula de Bram Stoker, un tout autre livre évoquait le rapport des vampires à l'amour. J'ai en tête Carmilla de Le Fanu, paru en 1872. Vous m'entendez bien? Ce roman est paru en 1872. Ce n'est que 25 ans plus tard que le Dracula de Stoker paraît. Les vampires sont parmi nous depuis toujours. Mais là, je m'égare. Je vous parlais donc de Carmilla de Le Fanu, un livre au cœur duquel l'amour avait sa part du gâteau, si l'on veut. Sous certains aspects, Carmilla abordait déjà l'homosexualité féminine. Déjà à cette époque, ce type de relation était suggéré. En effet, Carmilla est éprise de Laura, une demoiselle qui lui vient en aide au début du récit. Et des histoires de vampires épris de mortels, nous en trouvons, surtout de nos jours. Nous le devons en particulier à Anne Rice et ses Chroniques des vampires. En effet, dans ses romans, Anne Rice fait du vampire une créature romantique et non plus une créature du mal comme l'était Dracula. Quoique, si vous lisez Dracula l'immortel de Bram Stoker, ben Dracula est pas si méchant que ça. Enfin bref, avant d'en revenir à la littérature, passons du côté de la télévision avec Buffy contre les vampires. Je ne vous raconte pas l'histoire de Buffy, jeune fille élue pour affronter les créatures de la nuit, et en particulier les vampires. Ironie du sort, c'est d'un vampire qu'elle tombera amoureuse, Angel. Angel, un immortel avec une âme qui regrette ses mésactions passées, désireux de mourir, mais qui au final sera bien content d'être éternel. Quand je vous disais que vampire et amour vont de pair, avec Buffy, les vampires commencent à revenir sur le devant de la scène. Mais là où il y aura un grand boom autour de ces créatures de la nuit et de cette thématique, c'est surtout grâce à la saga Twilight de Stephanie Meyer. Les romans nous sont parus entre 2005 et 2008. Les films, eux, sont sortis entre 2008 et 2012. Et pourquoi je parle de ça, moi? Car oui, ici, le mythe du vampire, du moins son rapport à l'amour, y est survolé et raflé. Je ne peux pas partir dans une critique de la saga Twilight. Il y en aurait à dire. Puis, si vous m'écoutez depuis la saison passée, je pense que vous l'avez bien compris, je ne suis pas grand fan de Twilight. Cependant, on peut dire merci à Twilight, car ça a permis à la mode vampire d'être lancée. Et boum! Nous voilà avec moult adaptations de romans touchant de près le mythe vampirique. Parmi ceux-ci, The Vampire Diaries et True Blood. True Blood est la première à arriver sur les écrans. Adaptée de la saga littéraire La Communauté du Sud de Charlène Harris, True Blood nous arrive en septembre 2008 et s'est conclue en août 2014 avec une saison 7 qui rattrape avec brio les égarements de la saison 5 et 6. Voilà, comme ça je l'ai dit, ça permet de faire en même temps un petit focus dans un focus sur True Blood. Je disais donc, au sujet de True Blood, tout comme le roman, la série raconte l'histoire de Suki. C'est à du sang synthétique, le True Blood, qui permet de subvenir à leurs besoins alimentaires que les vampires se sont révélés au monde et vivent au grand jour. Suki, jeune télépathe, tombe amoureuse de Bill, un vampire qui a récemment emménagé dans la petite communauté de Bontemps. Histoire un peu plus classique, mais à l'inverse de Twilight, qui est resté bon enfant, niais à souhait, ici on retrouve le vampire dans toute sa splendeur. Je parle de son côté animal, sauvage. La série ne fait pas dans la dentelle. Le vampire boit du sang, il tue, accablé par son vécu, son immortalité, il ne trouve son salut que dans l'amour. Et surtout, il y est une figure érotique. Et oui, de relations charnelles, il y en a dans True Blood. Nombre d'éléments qui se retrouvent aussi dans la série The Vampire Diaries, série débutée en septembre 2009 et qui surfe indéniablement sur la vague Twilight. La série est adaptée des romans Journal d'un vampire de L.G. Smith. Et la série est toujours en cours, on est à la 6e saison, j'en profite de faire un petit focus dans le focus sur Vampire Diaries en vous disant que la 6e saison est fort sympathique. Elle est un peu magique, sans en dire plus. Donc, dans Vampire Diaries, on y suit la confrontation de deux frères vampires pour le cœur d'une charmante demoiselle. Seulement ici encore, point de romance à l'eau de rose. Quoique... Oui et non, il faut le dire, les séries de la CW sont là pour toucher un vaste public, adolescents et adultes. Mais pour autant, le vampire y est représenté dans toute sa splendeur. C'est vous dire, la série se permet de se moquer de Twilight et de ses vampires dépressifs brillant au soleil. Et encore, je pourrais en dire, surtout en parlant cinéma, car des films de vampires, il y en a. Leur immortalité et leur rapport à l'amour, ils sont les sujets les plus mis en avant. Tout pour dire que oui, vampires et amour ne font qu'un, et c'est d'autant plus le cas aujourd'hui. D'autres thématiques entourent ces créatures de la nuit, oui, mais l'amour en est le cœur pour ainsi dire. Mythe immortel comme le personnage qui est au cœur, le vampire n'a pas fini de faire parler de lui. Allez, ce petit focus étant terminé, je vous propose une dernière petite chanson qui a trait à l'amour. Ça n'a pas trait au film vampirique, malheureusement. J'aurais pu faire un truc qui colle. Mais bon, tout pour dire que quand même, sous certains aspects, si, ça colle dans un sens, puisque pour les vampires, l'amour est comme une drogue. Bah tiens, Love is a Drug de Carla Gugino. Les noms compliqués, vous m'énervez. Love is a Drug de Carla Gugino et Oscar Isaac.
Good evening, gentlemen. We've got a great night in store for you. I see a lot of new faces out there, as well as some familiar ones, so I'm not gonna yammer on too long. I want you all to sit back, enjoy the service, the scenery, but most of all, enjoy the show. Hit it. Right. It ain't no big thing to wait for the bell to ring. It ain't no big thing, the toll of the bell. Aggravated, spare for days. I troll downtown, the red light plays. Jump. Look what's in store. Love is a drug and I need to score. Showing out, hit and run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, I can't shake free. Cause love is the drug for me.
Guess the rest. can't you see? Love is the drug for me.
C'était Love is a Drug de Carla Gugino et Oscar Isaac. Une musique tirée d'un film que j'apprécie beaucoup, Sucker Punch de Zack Snyder. Franchement, ce film, c'est un de mes films coup de cœur favori. Une sorte de Alice au Pays des Merveilles avec des flingues. Ouais, il l'avait présenté comme ça, Zack Snyder, à l'époque. Enfin bref, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez quoi que ce soit à dire, suggestions, avis pour la suite, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et pourquoi pas, un jour, venez parler film avec moi. Ou cinéma, ou tout ce que vous voulez. En vous remerciant pour m'avoir écouté, et aussi un grand merci à Radio Larzac pour l'enregistrement, et à Marie à la technique, un grand merci pour le jingle, je vous dis à la prochaine !